Vous écoutez
RMC.
Bonsoir Walid, bonsoir Sébastien.
Salut Timothée, salut.
Salut Timothée.
Vous êtes content d'être avec moi ou ça
me plaît les boules? Franchement,
un plaisir. Je
serais même venu avant s'il fallait.
Bon. On a terminé l'année.
Il y avait Simon, il y avait Manu.
Non, mais c'est vrai que le côté boucler la boucle, ça fait plaisir. On est bien d'accord. Je suis ravi de savoir que vous êtes aussi motivé que moi à l'idée de faire cette émission en ce 31. Et puis, c'est important d'être aussi avec les gens qui ont rien de particulier de prévu et qui restent tranquilles chez eux et qui veulent que ce soir ressemble à tous les autres soirs de l'année. Et l'After est la seule émission qui est en direct 365 jours sur 365. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution du président? Non, rien à voir, pardon. Qu'est-ce que vous pensez de Philippe Clément, pardon,
pressenti à nous,
à la place de Nico Kovac? On en parlera tout à l'heure avant de rendre l'antenne de vos vœux des uns et des autres. Vous aurez une petite minute pour vous adresser à votre maman, à qui vous voulez, c'est promis. En tout cas, oui, Philippe Clément, parmi d'autres noms qu'on évoquait hier, est celui qui semble quand même ressortir le plus largement chez nos confrères de l'équipe, soyons très clairs, mais également selon nos informations RMC Sport, c'est le nom numéro un, en tout cas, à l'idée de remplacer Nico Kovac. Avant d'être en ligne avec notre journaliste belge Guillaume Gauthier, qui nous fait l'amitié d'être là en ce soir du 31, je voulais d'abord avoir comme ça un premier avis, une première sensation, messieurs Walid peut-être.
Bah, la sensation c'est que ça reste un entraîneur qui a bonne presse en Belgique et même en Europe sur les derniers matchs qu'on a vus. Nous, on a eu la chance de voir cette équipe à deux reprises parce qu'ils sont tombés sur la poule du PSG, que ce soit en 2019 ou même cette année. On se rappelle du un partout rafraîchissant avec un gros pressing, avec de belles idées de jeu. Donc voilà, on va première vue, on attend. Moi, j'avais un avis hier très pessimiste sur le fait de changer avec Kovac, mais je me suis renseigné auprès de spécialistes belges. Ça reste un entraîneur qui est assez jeune, qui parle français. Ça va aider dans le vestiaire aussi et qui prône un beau football en ayant eu des résultats avec une équipe compétitive en Belgique. Donc à voir. Mais pour l'instant, je trouve que l'idée, en tout cas, elle est plutôt intéressante sur le papier.
Effectivement, c'est un wallon, mais qui maîtrise parfaitement le français.
Bah, l'idée est bonne. Le seul bémol par rapport aux, on va dire, les trois coachs qui ressortaient, c'est que c'est le seul qui est sous contrat. Alors, forcément, on sait très bien qu'aujourd'hui, les contrats, ils peuvent se casser, on peut trouver des accords. A priori, en plus, c'est un CDI. Bon, d'après ce que tu disais, Walid, peut-être que c'est aussi, il y aurait peut-être aussi une volonté de.
Oui,
les échos que j'ai eu avec
un spécialiste, Swan Borsellino, qui regarde beaucoup la Belgique, le championnat belge, il disait que cette année, il y avait déjà des fuites comme quoi, vu que ça faisait 2 ans et demi, 3 ans qu'il était avec ce même groupe-là, de changer. Parce que on arrivait peut-être en fin de cycle, donc peut-être qu'il y aura un commun accord entre les deux clubs.
Après, même s'il faut payer, je pense que c'est pas un souci pour Monaco. Je pense aussi qu'ils doivent aller assez vite et qu'ils avaient certainement déjà une idée. C'est ce que j'ai dit hier, dès l'instant où tu remercies Nico Kovac. Je pense qu'ils avaient déjà, si ce n'est une shortlist, même peut-être un choix numéro un. Alors si c'est lui, comme tu l'as dit, donc on a appris à le connaître sur les 3 dernières années. Il est quand même triple champion de Belgique en titre avec Genk il y a 2 ans et 2 fois de suite avec le club Bruges. Cette année, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'on a pu voir de bonnes choses. Et par rapport aussi à ce que souhaiterait Monaco notamment dans le jeu, tout correspond, c'est-à-dire entraîneur offensif, généreux, qui aussi a priori un bon rapport avec ses joueurs,
qui fait progresser les jeunes aussi, tu le disais hier soir. Peut-être que Kovac, sur le début de saison, avec Matazo, Tchouaméni, Sofiane Diop, Boadou, même si Sofiane Diop c'était bien mieux cette saison, c'est un coach qui à Bruges a fait vraiment éclore pas mal de jeunes joueurs et avec une idée directrice qui leur a permis de s'épanouir. Ça aussi, c'est important, je
pense. Notamment à Deketeler qui nous avait ébloui. D'ailleurs, je me suis emmêlé les pinceaux, il est flamand mais il parle parfaitement français puisque ce sont les wallons qui parlent français habituellement.
Je pense aussi que Michel connaît bien le championnat belge, donc dès l'instant où si jamais il se retourne vraiment sur lui, c'est qu'il est persuadé que c'est l'entraîneur idéal, même si en termes d'expérience, c'est un entraîneur qui est numéro un seulement depuis 2017, donc ça reste quand même assez jeune, qui connaît que le championnat belge, sans faire offense à nos amis belges. À part deux ou trois équipes, j'ai envie de dire que en termes de compétitivité, ça reste quand même assez moyen.
Un autre niveau.
C'est sûr qu'il y a eu la Ligue des Champions et qu'il y a eu des matchs intéressants, mais n'empêche que cette année, dans ce groupe qui était quand même très compliqué, la seule équipe en face qui, on va dire, pouvait jouer, Leipzig, ils en ont quand même pris 5. Ça, c'est pour les côtés un peu négatifs. Mais après, même s'il n'y a pas que les résultats, là, il aura certainement un effectif de meilleure qualité. Il pourrait rejoindre aussi Crépin Diatta, aussi qui connaît bien. Ça peut être une bonne idée. Mais comme on a dit hier, comme ils avaient, ça reste quand même un pari, quoi qu'il arrive, dans ce timing-là.
Guillaume Gauthier, journaliste pour Sport Foot Magazine, est avec nous. Bonsoir Guillaume, merci de prendre du temps en ce 31.
Bonsoir Guillaume.
Avec plaisir.
Bonsoir Guillaume.
Alors Guillaume, qu'est-ce qu'on doit savoir sur Philippe Clément pour ceux qui n'ont pas vu les deux matchs de Bruges, pour ceux qui n'ont jamais vu Bruges jouer et pour ceux qui ne savent pas qui est Philippe Clément, à l'exception qui ressemble un peu à Yamstam?
Ouais, il a le côté... entraîneur rasé en costard de Zinedine Zidane ou de Pep Guardiola, c'est un entraîneur qui a été un peu formé, on va dire, par Michel Preud'homme, qui était l'entraîneur en vogue au début des années 2010 en Belgique. C'est un ancien joueur, un ancien Diable Rouge, mais qui a pris le temps d'apprendre son métier comme adjoint pendant pas mal de temps à Bruges. Et puis qui a gravi les échelons calmement. Il a commencé à Waasland Beveren, qui était un tout petit club qui avait toujours l'habitude de jouer le maintien en Belgique. Et avec eux, il s'est retrouvé à jouer le milieu de tableau, voire la 6-7e place. Et donc en cours de saison, de ce qui était sa première saison, sur un banc de touche, il a été recruté par Genk, où ça n'allait pas du tout avec l'ancien entraîneur. Et en un an et demi, il a été finaliste de la Coupe de Belgique, et puis champion de Belgique, avec Genk, devant Bruges. Par la suite, Bruges l'a recruté, il a été champion de Belgique deux fois de suite avec Bruges.
C'était un exploit à l'époque de gagner avec Genk. L'effectif était nettement moins bon que ce qu'il a aujourd'hui à Bruges.
Il avait Malinowski,
oui.
Il avait Leandro Trossard qui joue maintenant à Brighton,
oui.
Il avait Pozzuolo qui est parti à Toronto en MLS, mais qui était largement le meilleur joueur du championnat. Il avait aussi, il avait une équipe.
C'était paru comme un exploit à l'époque.
C'était paru comme un exploit, un petit exploit, parce que c'est un club qui est rarement champion, mais c'était quand même un effectif qui était, à mon sens, le meilleur du championnat, en tout cas quand ils étaient au.
Mais par rapport aux joueurs que tu dis, est-ce que justement entre le début de saison et la fin de saison, est-ce qu'ils avaient fait progresser ou c'était des joueurs déjà, Malinowski, il est plus jeune, mais est-ce que c'est des joueurs justement, on avait vu une sorte de progression, parce que si Monaco va sur lui, c'est aussi dans l'idée aussi de faire progresser certains joueurs, notamment les jeunes.
Oui, en fait, là où il avait été assez fort, c'est que il était arrivé après Albert Stuyvenberg, qui était un coach hollandais, et qui lui était très rigoureux, jeu de position très strict. C'était un disciple de Louis Van Gaal, quoi. Il a travaillé avec Van Gaal, d'ailleurs, à Manchester United. Et donc, les joueurs principaux, dont Malinowski, dont Pozzuolo, se plaignaient un peu de ce manque de liberté offensive sur le terrain, du fait qu'on leur enlevait leur créativité. Et lui, il est parvenu à construire à partir de la structure que Stuyvenberg avait installée, mais à libérer un peu plus ses joueurs offensivement. Et puis, sa grande force, c'est qu'il avait perdu Pozzuolo, qui était vraiment son joueur majeur, juste avant les playoffs, qui détermine le titre. Si vous connaissez pas le système en Belgique, en gros, après la phase classique où tout le monde a joué contre tout le monde, les 6 premiers jouaient encore un mini-championnat en 10 journées, mais on divisait les points par deux. Donc Genk perdait son avance et avait perdu son meilleur joueur, puisque le mercato en MLS était jusqu'en mars. Et donc là, il était parvenu quand même, en perdant son meilleur joueur, en ayant toujours une très bonne équipe, mais à
trouver les solutions,
à conserver une compétitivité en adaptant un peu les principes de son équipe, en rendant Malinowski plus important dans ses offensives, en lui donnant plus d'espace. Donc c'est un entraîneur qui en fait est très fort pour mettre ses meilleurs joueurs en confiance et pour surtout pour installer des très bons plans de match. Vous avez pu le voir contre Paris, notamment au match aller. Il était très bien préparé sur comment faire mal à l'adversaire. Il y a peut-être moins un plan de jeu très précis. Offensivement, c'est pas un jeu de position très carrée où les joueurs sont positionnés. Non, ils ont vraiment, il y a beaucoup de place pour leur créativité individuelle, ce qui est parfois brouillon dans les mauvais jours, mais dans les bons jours, ça peut donner des grandes envolées quand il y a des bons joueurs qui savent s'associer ensemble naturellement. Mais par contre, sa grande force, c'est quand il joue contre un adversaire de très bon niveau, il est toujours très bien préparé pour pouvoir le gêner.
Guillaume Gauthier, vous êtes journaliste pour Sport Foot Magazine. Vous êtes là pour nous brosser le portrait de Philippe Clément. Vous venez de nous faire un petit peu, on va dire, son curriculum vitae. Sur le plan humain, moi j'ai eu la chance de le rencontrer à l'occasion des matchs de Paris, de l'interviewer. J'ai vu face à moi effectivement ce grand bloc costaud, mais un homme plutôt charmant, plutôt souriant. Comment est-il humainement avec son groupe? Nico Kovac avait parfois avec son frère, ce côté un peu froid qu'on pouvait lui reprocher d'une certaine manière. Est-ce que c'est un de ces entraîneurs modernes, très proche de ses joueurs, j'ai presque envie de dire à la Klopp, avec la calinothérapie, ou est-ce qu'il sait garder une distance? Quel est son style?
Non, c'est un entraîneur plutôt chaleureux tout de même. Le fait d'avoir été entraîneur adjoint auparavant, je pense, l'a aidé là-dedans à développer surtout le rapport humain avec les joueurs. Et c'est quelque chose qu'il a conservé ici dans sa fonction d'entraîneur principal. Il a eu pas mal de problèmes, problèmes entre guillemets relationnels ici en début de saison avec Bruges, parce qu'il a mis sur le banc dans énormément de matchs importants Ruud Vormer, qui est le capitaine de Bruges depuis des années, qui est un joueur adoré par les supporters parce que c'est un joueur qui va au charbon.
Et qui avait débuté sur le banc face au Paris Saint-Germain, notamment.
Oui, ça avait été une grosse sensation à ce moment-là parce que c'était le premier gros match de la saison de Bruges. Et donc c'est un peu à ce moment-là que le problème Vormer a commencé. Et ça a été assez difficile à gérer, mais finalement il est parvenu à le réintégrer dans son équipe en masquant ses faiblesses parce que Vormer, derrière le côté, je me bats sur tous les ballons, il se battait surtout quand le ballon était entre lui et le but. Mais une fois qu'il était effacé, il avait tendance à revenir un peu calmement, quoi. Et il est parvenu à remettre en place un système presque en 4-4-2 losange, en mettant plus en tout cas Ruud Vormer au milieu de terrain, pour pouvoir le rendre utile offensivement, sans qu'il soit trop préjudiciable défensivement. Donc, à ce niveau-là, il est parvenu à sortir d'une situation difficile, même si on n'était pas encore dans une relation au beau fixe entre les deux, c'est clair qu'il y avait un truc qui était un peu cassé, mais... il a toujours, en tout cas, il a cette réputation de bon people manager qui s'est un peu moins vérifié ces derniers temps, mais ça fait 3 ans qu'il est avec son groupe et c'est un problème qui, après 3 ans, se constate chez beaucoup d'entraîneurs parce que même s'il y a eu quelques transferts cet été, dont beaucoup de transferts ratés justement, la grosse majorité de l'équipe, c'est une équipe qui est installée depuis 4, 5, voire 6 saisons ensemble.
Guillaume Gauthier, vous êtes journaliste belge et on est là pour parler de Philippe Clément, entraîneur pressenti, hein, rien n'est fait pour prendre la place de Nico Kovac à la tête de l'AS Monaco. Une question de Sébastien Piocelle.
Ouais, c'est pas vraiment une question. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais du fait que ce soit un jeune entraîneur qui l'ait débuté en 2017. Et c'est vrai que ce que disait Guillaume, le fait d'apprendre son métier et justement d'avoir été adjoint, c'est pas du tout une perte de temps. Et notamment dans la gestion d'un groupe, je prends l'exemple de Christophe Galtier, que moi j'ai eu à Bastia, qui a été aussi adjoint à Saint-Etienne. Même si c'est des anciens joueurs,
adjoint à Lyon,
dans la compréhension d'un groupe, c'est vrai que de passer, alors c'est jamais évident hein, de passer surtout dans une même équipe, ça n'a pas été le cas pour lui de passer entraîneur adjoint, entraîneur principal, mais c'est vrai que dans la compréhension des joueurs, certainement qu'on on gagne du temps, et là-dessus donc, bon, a priori il y a...
Pourquoi, toi qui es ancien joueur, Sébastien, explique-nous, quel est le rôle de l'adjoint? Il est plus près, il est plus proche, il fait plus partie du vestiaire et un peu moins de
oui,
la partie décisionnelle?
Alors après, encore une fois, chaque adjoint est différent parce que tout le monde a une personnalité, mais c'est vrai qu'il peut servir de tampon. Quand je dis ça, c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on va avoir plus tendance à faire passer des messages dans les deux sens avec l'adjoint. Des fois, il y a d'autres liens. Ça peut être ça peut être le doc, ça peut être un autre adjoint, mais c'est vrai que c'est l'adjoint numéro 1, numéro 2, en tout cas, qui sont assez proches du coach. C'est des personnes hyper importantes pour des fois donner le ressenti à l'entraîneur.
Sur un
ressenti, une demande dans les deux sens. Alors c'est pas être une balance, c'est pas aller dire justement au contraire, il y a une sorte, ça peut être une sorte de confident, et c'est vrai aussi que quand quand ça a été un ancien joueur, là aussi, bon, c'est un peu plus simple parce que on connaît les situations auxquelles peuvent confronter les joueurs. Et du coup, c'est un rôle très très important de l'adjoint.
Aujourd'hui, il y a certains clubs qui font appel à des team managers, c'est-à-dire des adjoints destinés justement à ce côté un peu confident auquel les joueurs peuvent exposer leurs problèmes, leurs soucis peut-être personnels parfois, avant, jusqu'à il y a peu, hein, parce que c'est assez récent ce principe de team manager, avant c'était vraiment l'adjoint qui faisait office comme ça de confident.
Ben moi sur mes expériences maintenant il y a beaucoup d'adjoints, mais il y avait un adjoint, aller voir deux, ça m'est arrivé en Italie ou même à Bastia, mais sinon tu avais un adjoint principal. Mais en fonction, je prends l'exemple, hein, je prends à Nantes, il y avait Giorgio qui était l'adjoint de Reynald de Nouex et avant de Coco Ciodo. Bon, il avait un certain âge, moi j'étais jeune, j'allais plutôt parler avec le doc ou en fait ça dépend des personnalités. Christophe Galtier à Bastia, ils étaient deux, il y avait aussi José Pasqualetti, c'était les adjoints de Gérard Gilly. Que ce soit José ou Christophe, c'était deux anciens joueurs, deux personnes avec qui facilement on pouvait aller discuter, on pouvait aller faire passer des messages au coach. Donc en fait ça dépend des contextes. Ouais, ça dépend des contextes, ça dépend des personnes, ça dépend, tu peux retrouver un entraîneur que tu as eu aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Aujourd'hui, les staffs sont beaucoup plus importants, il y a comme tu dis, il y a des nouveaux rôles aussi, et justement à un moment donné, on a compris que justement l'importance que ça pouvait avoir dans un groupe. Et après, quelque part le coach principal, lui, il manage aussi son staff, c'est un manager de son équipe mais aussi de son staff, et c'est quand il arrive à faire tout ça que en général il arrive à embarquer tout le monde dans ses idées.
Important de comprendre le rôle d'adjoint, puisque Philippe Clément, donc l'entraîneur pressenti pour prendre la place de Niko Kovac, a été adjoint jusqu'à il y a peu, puisqu'il a fait sa mue en 2017, passant du rôle d'adjoint à celui d'entraîneur principal à Genk. Walid,
moi, la question que j'aimerais poser, c'est comment ça se fait, parce que on a vu cette équipe en Ligue des Champions, notamment que ce soit en 2019 avec cette première mi-temps magnifique au Bernabéu, même ce match retour contre le Paris Saint-Germain où sans ce pénalty arrêté par Navas, ils méritaient de faire un gros résultat au Parc des Princes. La même chose cette année avec ce 1-1 et ce gros résultat décroché à Leipzig où clairement dans le jeu ils étaient au-dessus des Allemands. Comment sur ce début de saison ça a switché un petit peu dans le négatif, que ce soit en championnat et surtout en Ligue des Champions après avec ces deux défaites. Bon, contre le PSG c'était plutôt logique, mais surtout contre Leipzig où il y avait un vrai coup à jouer pour aller en Europa League et ils ont été complètement mangés dans le jeu. Il s'est passé un truc dans le coaching de Clément.
En fait, déjà la saison passée, et même ici en début de saison, ils avaient surtout dans la première moitié de saison été brillants en Ligue des Champions.
D'accord.
La saison passée, ils ont fini troisième de leur groupe en Ligue des Champions, mais c'est après la campagne européenne, donc vraiment en décembre et en janvier, qu'ils ont fait la différence en championnat. Et ils ont finalement été champions, ils ont été rattrapés par Genk et ils sont champions à égalité de points la saison dernière. Donc à ce moment-là, on sentait déjà que ça s'essoufflait un peu. Il y a certains cadres du vestiaire qui pensaient qu'il allait partir, qu'il allait avoir une opportunité suffisante pour partir et qui se disaient que c'était peut-être nécessaire. Et finalement, il n'a pas eu tellement de possibilités. Il a eu des opportunités pour aller à Sheffield, mais c'était en deuxième division anglaise, ou à Schalke, mais qui descendait aussi en deuxième division allemande.
Donc, à la hauteur de ses espérances.
Oui, voilà. Donc forcément, il est resté. Du coup, l'idée de Bruges pour relancer un peu la machine, ça a été de faire un mercato assez important. Mais les transferts qu'ils ont faits, il n'y en a quasiment aucun qui s'est imposé dans l'équipe. Ils ont fait par exemple Stanley Nsoki, mais qui a globalement assez déçu et qui est sorti de l'équipe finalement. Il avait toujours l'air pas à 100%, et dans son implication mentale il y avait quelques reproches qui étaient faits au sein du club. Fetou Mawasa, qu'ils ont transféré aussi pour pas mal d'argent, c'est pas du tout imposé. Ils se cherchaient un peu de nouveau entre un 3-5-2 et un 4-3-3 en début de saison, et en fait disons que les bases très fortes qui étaient installées par son prédécesseur, elles avaient fini par vraiment disparaître. La chance qu'il avait eue quand il est arrivé à Bruges, comme quand il est arrivé à Genk, c'est qu'il avait eu avant lui un entraîneur très, très strict sur le jeu de position à chaque fois. Donc les joueurs étaient très rodés tactiquement, quoi. Et donc il a pu avoir un peu un rôle à la Carlo Ancelotti, je vais dire.
Donc il n'a pas un rôle de bâtisseur.
Non, ici, là, les fondations étaient déjà posées. Après, d'accord, il a changé les choses parce que, par exemple, à Bruges, avant lui, ça jouait vraiment tout le temps en 3-5-2. Les premiers mois, il a joué en 3-5-2 et puis petit à petit, il a adapté vers son 4-3-3. Mais c'est pas vraiment lui qui a bâti un style de jeu à l'équipe. C'est pour ça que je dis qu'il est plus impressionnant sur ses plans de match que sur ses plans de jeu, d'accord, de manière générale. Parce qu'il est, il est vraiment très fort pour ça. Pour, contre le PSG, c'était un parfait exemple. Il avait vraiment bien vu comment gêner un maximum le PSG.
Oui, notamment sur les côtés ou même sur le match, même sur le match en 2019 en bloquant Verratti, notamment, il a eu quelques idées qui ont payé sur le terrain et sur le contenu. Mais vous le sentez, vous en Belgique, vraiment capable de prendre, parce que là il change quand même de statut si il signe à Monaco avec des grosses ambitions. On a fait une émission presque entière hier sur Kovac qui a été limogé alors qu'il était que à 3 points de la deuxième place et en 8e de finale d'Europa League. C'est dire un petit peu les ambitions du club quand même et l'exigence qu'ils ont au-delà des résultats, surtout aussi sur le jeu et sur la progression des joueurs. Est-ce que vous le sentez capable de vraiment step up en termes d'ambition, avec tout le respect que j'ai pour Bruges et le championnat belge,
franchir un cap dans le texte.
J'ai une grosse interrogation sur le fait qu'il puisse. Enfin, c'est la première fois qu'il arrive dans un contexte qui n'est pas un contexte idéal.
D'accord.
C'est-à-dire que quand il arrive à Genk, il a une équipe qui est en croissance pour être la meilleure équipe du championnat. Et quand il arrive à Bruges, vu que Genk est champion et se fait dépouiller, et que Bruges, au contraire, se renforce, ben, il a la meilleure équipe du championnat. C'est-à-dire que quand il arrive à Bruges, il signe notamment Simon Mignolet au but qui revient de Liverpool, ce qui, à l'échelle du championnat belge, vous pose quand même les ambitions du club. Donc, il a toujours eu, sur ses expériences, mis à part la première, on va dire, il est arrivé au moment idéal dans le club idéal. Et ici, vu les exigences de Monaco et leur classement qui n'est pas à la hauteur de leurs espérances, il arrive un peu plus dans une situation différente.
Il va arriver quand même dans un moment où Monaco s'était repris au niveau comptable, parce qu'il restait sur un bon mois de décembre. Moi, ce qui m'inquiète, mais tu disais que ces équipes, elles s'essoufflaient. Alors que bon, ça fait pas 4 ans ou 5 ans qu'il est.
Qu'est-ce que ça. 2 ans et demi, 3 ans, ça reste exigeant quand même.
Ouais, non, mais il disait que déjà en fin de saison dernière, oui, après la 3e place en Ligue des Champions, c'était déjà un peu compliqué, que la fin de saison, ils avaient été champions au goal average. C'est par rapport à quoi quand tu dis qu'il s'essouffle, c'est-à-dire qu'il en demande énormément aux joueurs, il y a beaucoup d'énergie demandée, c'est quoi? C'est par rapport à quoi que le
non,
groupe s'essouffle?
Non, je pense que c'est un peu parfois le manque de base de jeu. En fait, comme il laisse énormément de liberté, moi je me souviens d'avoir interviewé Ryota Morioka, qui était son meilleur joueur à Beveren, donc ses débuts comme coach, et il m'avait dit, avec Philippe Clément, il n'y a pas de tactique. Et puis il s'était repris parce qu'il comprenait que ça allait être mal perçu s'il disait ça comme ça. Et il m'avait dit, c'est pas qu'il n'y a pas de tactique, c'est que offensivement.
D'ailleurs, Sébastien Piocel est devenu livide sur le coup. Donc, précisons la pensée
C'est pour ça que c'est important de le préciser.
Vite.
En gros, il voulait dire que. Enfin, il le disait de manière positive, dans le sens où.
Il y a une liberté
individuellement,
offensive.
Il avait énormément de place pour sa créativité.
D'accord.
Parce qu'il n'y avait pas de. C'est pas un jeu de position, quoi.
Ça, c'est
les
positif,
joueurs bougent un peu dans tous les sens, même quand ils vont presser. Parfois, c'est plus à l'enthousiasme collectif que sur des positions précises. Quand on voit, si vous voyez le match contre le PSG, parfois ça se désorganise très fort en pressant parce que ils vont pas spécialement presser de manière structurée, mais presser avec beaucoup d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui parvenait à très bien transmettre à l'équipe dans tous les matchs au début, dans les gros matchs sur la fin, parce que ça s'était un peu essoufflé. Mais à un moment, ce manque de repères, là, il se voyait énormément. Disons que Bruges a gagné ces dernières années beaucoup plus de matchs parce qu'ils avaient des meilleurs joueurs que parce qu'ils jouaient mieux que leur adversaire.
Non, parce qu'on parlait de la qualité un peu des coachs dans le championnat de France. Et c'est vrai que une équipe comme ça qui va presser, mais en étant désorganisée, c'est-à-dire que des fois, ça va fonctionner. Mais vu la qualité quand même du championnat cette année, on l'a dit, bon, il y a le PSG et puis il y a 7-8 équipes derrière qui bataillent, et encore on compte même pas Lyon qui reste quand même Lyon. Ça veut dire qu'il y a énormément de qualité, donc c'est vrai que même s'il y a un bel effectif à Monaco, si il y a de la liberté, ok, offensivement ça c'est très très bien, c'est positif, hein, le fait de laisser la créativité aux joueurs offensifs. Quand je dis aux joueurs offensifs, je parle pas que des attaquants, mais c'est vrai que s'ils se déstructurent et que derrière, ils passent à travers un pressing.
Et la ligne, elle est mince entre liberté offensive et le hurra football avec un truc qui n'est pas maîtrisé.
Je prends l'exemple de Sampaoli qui quelque part est tombé un peu dans le pragmatisme. On prenait plus de plaisir peut-être en début de saison, mais par moment, je me rappelle d'un match contre Metz, c'est Mandanda qui jouait, en plus s'il y a pas Steve, ils peuvent le perdre parce qu'ils concèdent je sais pas combien de tirs, et il s'est aperçu lui, tout Sampaoli qu'il est, qu'à un moment donné, même s'il aime bien se déstructurer, si t'es pas au minimum organisé, dans le championnat de France ça passe pas, parce qu'il y a de la qualité.
Mais surtout, c'est ce qui est intéressant dans ce que dit Guillaume, c'est que moi j'avais eu l'écho notamment, que ce soit dans des articles que j'avais lus sur Bruges en début de saison, il y avait beaucoup de comparaisons en disant c'est le Bayern de la Belgique. Là, dans ce que tu es en train de me décrire, c'est plus le Paris Saint-Germain de la Belgique, c'est-à-dire que avec une équipe qui individuellement est bien meilleure que le reste des équipes, et qui arrive à faire la différence par ses individualités, mais dans le contenu. Et vous avez dit une phrase très très intéressante. Il y a beaucoup de matchs où ils le gagnent par la force individuelle et pas forcément par le contenu collectif. Et ça m'inquiète un petit peu si ça se reproduit en Ligue 1 avec Monaco, parce que depuis le début de saison, on l'a dit hier, il y a beaucoup d'individualités qui ne sont pas à leur meilleur niveau, et l'écart avec les autres équipes de Ligue 1, surtout dans une Ligue 1 cette année où t'as l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Un week-end, t'as Brest qui peut battre Marseille et Brest qui peut en prendre 4 contre Montpellier la semaine d'après. Ça reste très très homogène en termes de niveau. Ça me fait un petit peu peur ce que nous dit Guillaume ce soir.
Guillaume Gauthier, journaliste belge pour Sport Foot Magazine, est avec nous pour parler de Philippe Clément. Je voudrais simplement conclure. Il nous reste une petite minute. Guillaume, d'abord vous remercier d'être avec nous encore une fois ce soir du 31. On voit que on n'est pas les seuls à travailler. Ça fait plaisir. Simplement, vous demandez sur la perception que cela aurait en Belgique, son départ. Il est encore sous contrat. Un CDI me faisait remarquer Sébastien Piocelle. C'est quelque chose qui est totalement inédit en France, extrêmement extrêmement rare. Je sais que c'est interdit pour les joueurs, j'ai un doute pour les entraîneurs. Comment serait perçu ce départ après une élimination un petit peu piteuse en Ligue des Champions, alors qu'il y avait peut-être une troisième place à aller chercher pour l'Europa League? Est-ce que ça fait un peu capitaine qui quitte le navire?
En fait, quand on voit les réactions de la plupart des supporters sur les réseaux, dans l'ensemble, il y a une situation qui est assez étrange pour un entraîneur qui vient d'être deux fois champion, c'est que la plupart se disent « Ah bah c'est bien, il est temps de changer quelque chose ». Je pense que c'est une situation qui peut être gagnante pour toutes les parties, parce que à Bruges, il était clairement arrivé à la fin de quelque chose, que lui avait besoin d'un nouveau défi, et je pense qu'il avait déjà un peu forcé dès la fin de saison dernière pour essayer d'en avoir un, et que ça a été difficile pour lui personnellement de voir relancer la machine alors qu'il avait été champion un peu sur le fil. On sentait que l'histoire était plus proche de la fin que du début, on va dire, avec Bruges. Donc ça a été perçu un peu ici. En plus, ils viennent de perdre le derby contre le voisin du cercle qui est propriété de Monaco, justement, pour le dernier match avant la trêve. Donc ça part pas sur un bon sentiment, quoi. Et ces derniers mois, il y avait eu les conflits avec Ruud Vormer, etc. Tout ça fait que, je dis pas qu'il va pas être regretté, mais qu'au niveau des supporters du club, il y en a quand même beaucoup qui commençaient à aspirer à autre chose.
On va chaleureusement lui serrer la main pour les deux titres, mais personne ne sera trop triste de son départ.
Oui, c'est ça. Maintenant, pour la Belgique, c'est un des rares entraîneurs qui va maintenant s'exporter dans un grand championnat. Donc, il y a aussi ce côté. On a envie de voir ce que lui va pouvoir faire. Ça fait 2-3 ans qu'il est vendu comme le meilleur entraîneur du championnat. à tort ou à raison, mais maintenant il va devoir le prouver dans une adversité qu'il a encore jamais connue jusqu'à maintenant.
Toi Guillaume, qui dit il va à s'exporter en Belgique, c'est du quasiment sûr là, le fait qu'il remplace Niko Kovac.
Ouais, ben enfin de ce que j'ai lu dans la presse néerlandophone et Utrechtse Nieuws pour les citer, qui est le média sans doute le mieux informé sur le club, il parle déjà d'une quête d'un remplaçant à Bruges qui est déjà amorcé. Le fait qu'il avait signé un CDI, c'était aussi, je pense, pour que les deux parties puissent se permettre.
On a Laurent Batless ou Niko Kovac à vous proposer.
ça parle d'un entraîneur étranger, donc ça tient la route. Hein,
mais Guillaume, très rapidement, Guillaume, parce que à vous écouter depuis tout à l'heure, moi j'ai eu d'autres sons de cloche aujourd'hui chez les spécialistes belges. J'ai l'impression que c'est un coach très très clivant quand même. Est-ce que vous avez cette approche vous aussi en Belgique là-dessus, sur son bilan, sur ce qu'il dégage, sur ce qu'il peut apporter aussi à Monaco? Nous on a l'impression avec notre recul en France par rapport à ce qu'il a montré en Europe, que c'était plutôt intéressant et que les équipes notamment Bruges étaient plutôt intéressantes à voir jouer, mais il y a d'autres sons de cloche qui sont un peu plus négatifs. Tu le ressens comme ça toi aussi?
Je crois que la plupart des impressions sur lui sont positives, parce que c'est quand même le triple champion de Belgique. Mais personnellement, dans ce que je regarde et dans ce que je vois au niveau du jeu, ça fait quelques saisons que je trouve que c'est suffisant pour être champion. Donc au final, là-dessus, on n'a rien à lui dire. Mais c'est décevant par rapport à ce qu'on pourrait tirer de la qualité du groupe qu'il avait encore à sa disposition.
Merci beaucoup Guillaume Gauthier d'avoir été avec nous, journaliste belge pour Sport Foot Magazine. Merci d'avoir pris du temps en ce 31 au soir. On vous souhaite une magnifique année 2022 à vous, à votre parution et évidemment à tous nos auditeurs belges qui sont nombreux à nous écouter. À très vite Guillaume. Nous, on va revenir encore un tout petit peu sur l'AS Monaco. On sera avec Adrien qui nous a appelé au 32-16 et puis on parlera un petit peu de l'actualité du jour avant, dans la deuxième heure, de dresser une sorte de bilan de l'année passée et puis se projeter aussi sur les joueurs libres la saison prochaine.
RMC, l'Afterfoot, Timothée Mémon.
De retour dans l'After, on est ensemble jusqu'à 22h. À 22h, vous avez rendez-vous avec Julien Cazard pour passer le cap de la nouvelle année. Ce sera le réveillon à la Cazard. Jusque-là, on est avec Sébastien Piocel, avec Walid Acherchou. On continue à parler de Philippe Clément, pressenti pour prendre la place de Niko Kovac, et Adrien qui nous a appelé au 32-16. Bonsoir Adrien, comment ça va?
Bonsoir, ça va très bien et vous?
Ça va super.
Salut Adrien.
Bienvenue.
Salut
dans
Adrien.
L'After. Quelle est ta position quant à la potentielle venue de Philippe Clément, et puis peut-être aussi réagir, parce que ça reste quand même assez frais, c'est tombé hier soir, le limogeage de Niko Kovac.
En effet, c'est tout frais. On a à peine le temps de digérer une information que l'autre arrive, donc j'ai envie de dire, quelque part, tant mieux, parce que voilà, ça montre que quand même Monaco avait préparé, enfin tous les dirigeants, tout le staff avait, enfin pas le staff, mais les dirigeants d'encadrement du club avaient préparé déjà un peu la suite a priori. Mais ça fait beaucoup pour les fêtes. En plus du repas, ça va faire beaucoup à digérer ce soir. Quoi.
C'est un peu lourd sur l'estomac.
C'est ça. Non, mais après hier très très surpris et très un peu déçu sur le coup de l'éviction de Kovac, mais après s'ils prennent les décisions si rapidement, c'est que ils ont senti le coup, enfin qu'il fallait prendre les décisions aujourd'hui là actuellement, et du coup de changer d'entraîneur, d'avoir cette solution de Philippe Clément a priori qui est bien parti pour être le futur entraîneur de l'AS Monaco. Donc j'ai envie de dire, Kovac, on ne l'attendait pas. On a eu cette affaire Moreno ça a fait un peu le même coup. Donc je me dis, pourquoi ne pas faire encore une fois confiance à Monaco? Parce que j'ai envie d'y croire. Ça me fait chier parce que j'adorais Kovac. Mais j'ai envie de croire au fait que les dirigeants, encore une fois, peut-être prennent encore la bonne décision. Même si, entre supporters, on est tous un peu... savoir ce qui va nous attendre. On ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé, on n'a pas de stabilité, mais voilà, j'ai envie de dire que dans ces incertitudes-là, on s'en est toujours plutôt bien sorti avec l'équipe qu'on avait sur le terrain.
Adrien, Walid Acherchou a un mot à te dire.
Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, Adrien, moi je partage ton sentiment, avec le marché actuel en tant qu'entraîneur, qu'importe l'entraîneur, il y aura des avis positifs et des avis négatifs. Il faudra juger sur pièce. Jesse Marsh, s'il vient, il s'est complètement vautré à Leipzig, et il y a qu'à voir les observateurs allemands et à les entendre pour comprendre son échec. Paulo Fonseca, on parlait de Paulo Fonseca à la Roma, même si c'est un contexte très très compliqué, a eu aussi des difficultés, et on te parlera du Shakhtar Donetsk en disant que c'était très bien, mais derrière à la Roma, quand il a fallu passer un cap et franchir un cap, ça a aussi été très très compliqué.
Première année pas mal quand même.
Oui, première année compliquée, mais globalement ça a été mi-fig mi-raisin. Donc aujourd'hui t'es Monaco, tu changes de coach. T'as décidé de changer de coach. Tu prends un nouveau coach. Quoi qu'il arrive, il y aura des plus et des moins. Tu feras un tableau. Et là, ce soir, on l'a vu avec Clément. Moi, j'ai eu des échos positifs. Là, ce soir, on a eu un spécialiste qui nous a dit qu'il y avait des choses aussi à régler et une grosse marge de progression et qui pouvait être sceptique sur certaines choses. Aujourd'hui, il va falloir s'y préparer. Et tu veux que je te dise, Kovac, quand il est arrivé, il sortait d'un échec au Bayern avec un début de saison catastrophique aussi. Donc, malheureusement, c'est très très dur. On peut juger que le papier. Et dans le papier pour ce genre de coach-là, quoi qu'il arrive, ce sera mitigé. Il y aura des bonnes choses et des moins bonnes.
Toi, Adrien,
je suis d'accord. Et ce qui est bien aussi avec Philippe Clément, c'est que on n'est pas sur un entraîneur qui est forcément en échec. Ça m'aurait fait chier de prendre.
Oui, c'est vrai. Mais sur une dynamique positive.
D'un échec. Voilà, on dit. Enfin, on l'a vu le jeu. Enfin,
je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Excuse-moi. Après l'échec, ça fait partie aussi d'une carrière. Oui, encore une fois, tous les contextes sont différents. En général, quand un club prend un entraîneur. À un moment donné, c'est qu'il a réussi. Je parle pas des entraîneurs qui démarrent, mais c'est qu'il a réussi quelque part. Ils le prennent aussi pour ses qualités. Après, des fois, ça match ou ça match pas. C'est pour ça. Donc, par rapport à la confiance que toi, t'as l'air de faire à tes dirigeants, est-ce que tu trouves pas quand même qu'il y a une certaine instabilité quand même depuis 4 ou 5 ans à Monaco, qui dépense quand même beaucoup d'argent? Est-ce que le fait, là, de, encore une fois, de changer d'entraîneur, toi, même si tu aimais bien Kovacs, mais au-delà que tu l'aimes bien, est-ce que tu trouves pas que, pour un projet comme Monaco, d'avoir changé 3 ou 4 fois d'entraîneur en 4 ans ou 5 ans, est-ce que justement ça met pas un frein au projet?
Si, clairement. Enfin, moi je suis d'accord avec ça sur le fait que le manque de stabilité, enfin, l'époque la plus prospère de Monaco, c'est quand Jardim était à la tête de l'équipe depuis 3 ans et qu'il a fait une saison extraordinaire. Certes, il y en a qui ne lui donnent pas le mérite parce qu'il y avait une équipe fantastique, mais il a fallu gérer tout ça et on a eu de très belles années avec Jardim. Donc, Ça a été l'entraîneur qui a eu le plus de temps à la tête de Monaco et sous l'ère Ribolovlev. Et du coup, en effet, ça a permis d'avoir de la stabilité et de pouvoir gérer quelque chose, même s'il y avait beaucoup un brassage de joueurs très important. Il y avait toujours l'entraîneur qui restait fixe et c'était plutôt rassurant de ce côté-là. Et c'est vrai que le côté Henry, Jardim retour, plus Moreno, plus Kovac. Et là encore un nouveau coach, ça contraste beaucoup en fait avec ce qu'on a connu au début de l'ère russe à Monaco. Et du coup, c'est clair que côté supporter, on comprend pas trop parce que on s'y est attaché en fait. Kovac, c'était un personnage hyper attachant. Et en effet, du coup, sur le projet, ça ralentit parce que c'est le début d'un nouveau cycle. Faut repartir sur les trucs. Faut que l'entraîneur qui arrive, il choisisse un peu ses joueurs. Il va dire que le premier mercato, il va pas avoir le temps de choisir. On va lui donner des joueurs. Enfin, je sais pas si, j'espère que il y a un besoin pour Monaco de recruter cet hiver en défense centrale notamment. Et j'espère que du coup, cette arrivée-là va pas bloquer le fait d'avoir des arrivées parce que derrière, sur le sportif, faut pas oublier qu'on est vraiment en course pour choper le podium, pour aller faire des belles choses en Ligue Europa. Donc, ça serait dommage de ne pas faire de recrutement, de passer à côté de ces belles occasions, quoi.
Ah oui, il y a une fin de saison qui est très alléchante et intéressante pour Monaco, hein. Que ça soit en Europa League ou en Ligue 1, il y a un vrai vrai coup à faire. Mais juste très rapidement, il y a aussi le facteur vestiaire qui va être à prendre en compte. Et c'est là où je pense que Clément part avec, on va dire, je vais pas dire des certitudes, mais des ondes positives parce que ça se passe plutôt bien, même s'il a eu des cas à gérer comme Noah Lang, très très compliqué dans son vestiaire, parce que à Monaco, si on regarde bien, au-delà du manque de résultats, des défaillances dans le jeu par moment, c'est le vestiaire et la gestion du vestiaire qui a coûté la tête de tous les entraîneurs. Que ce soit Jardim, son premier départ, où ça se passait très très mal avec les cadres. Que ce soit Thierry Henry, que ce soit Moreno avec l'histoire de Slimani, pas Slimani, même si ça a dépassé ça. Le retour de Jardim, c'était exactement la même chose. Son départ aussi. Et là, Kovac, j'ai l'impression que c'est aussi le vestiaire et le fait que beaucoup de journalistes et d'insiders racontent que ça se passait mal par rapport à ses méthodes, qui lui ont aussi coûté sa tête. Donc ça aussi, ça va être important pour le coach de voir comment il va gérer ce vestiaire là parce que sur les dernières années l'instabilité de Monaco passe aussi par là.
Ouais, mais ça passe aussi peut-être que le coup de balai n'a pas été fait dans les vestiaires comme il le faut, quoi.
Oui.
Bah peut-être que effectivement Philippe Clément, si c'est lui, saura le faire. Merci Adrien d'avoir été avec nous.
Il y a pas de souci.
On souhaite merci
une bonne fin d'année.
Bonne soirée, une très belle année et si jamais tu bois, tu conduis pas et inversement, si tu bois pas, tu peux conduire, c'est le principe. Très bonne soirée Adrien, l'AS Monaco qui va donc perdre le sosie du chiffre pour le remplacer par celui de Yam Stam peut-être à la tête de l'AS Monaco. Nous on revient dans un instant, on va vous parler du 11 type des joueurs qui seront libres en fin de saison et qui peuvent négocier leur contrat dans 3 heures à peine. Ils pourront commencer à discuter avec les différents clubs. On va évidemment en parler de Kylian Mbappé entre autres.
RMC L'Afterfoot.